Vous écoutez le seul podcast qui paye sa tournée.
Qu'est-ce que je vous sers à boire ?
Bienvenue dans l'Assommoir.
Bon d'accord, mais pourquoi vous avez appelé votre bar comme ça ?
Ah oui, non mais moi, vous savez, mon petit péché mignon, c'est le gazpacho au tampon usagé.
Mettez-moi un whisky avec de l'eau.
Boudou, est-ce qu'on sert de la flotte dans ce bar ?
Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'Assommoir, le seul podcast qui paye sa tournée de culture G et de savoir insolite. Je suis Jean-Sébastien, votre barman, et ce mois-ci, au vu des tensions politiques qui ont secoué notre beau pays, je me suis dit qu'on allait parler d'un sujet hyper joyeux, la dictature.
Ouais.
Et les piliers à qui j'ai imposé ça sont...
Mort.
Et bien justement, vous venez de l'entendre, c'est une scénariste de génie et une féministe hors pair, Lucie.
Salut.
Ma Lucie, pour moi, tu es une féminariste.
Wow. De ouf, merci beaucoup.
C'est un humoriste suivi par 100 000 fidèles, il est plein de malice et a dit non à la dictature du chevelis, Maxime Farrer.
Bonsoir, oui, les cheveux bouclés sont en train de revenir en force et on aime beaucoup. On va vous avoir.
Avec tes magnifiques bouclettes, en Asie, tu ferais fureur.
Oh,
oh, dis donc.
Oh putain, jolie, jolie.
Oh, elle est pas mal, elle est pas mal celle-là.
Tambourin cymbale.
À côté de toi, Maxime, il y a, pour moi, le génie du 9e art. J'aime ses dessins et j'aime surtout sa patte artistique, Petit Pied.
Bonsoir tout le monde.
Salut.
Salut Petit Pied. Je voulais juste vous dire qu'il avait pas du tout des petits pieds. Genre, c'est sûrement les plus grands pieds que j'ai jamais.
Je déçois tellement de fans à cause de ça. Vraiment, je suis en mode non, je suis du 42, voilà.
Mais il est venu avec son étoile d'art.
Son étoile d'art ?
Dans le dessin animé Petit Pied, sa mère lui donne une feuille qu'elle appelle l'étoile d'art.
Oh oui, oui, je vois.
Est-ce qu'elle est jaune, cette étoile ? Restons dans le thème de l'émission.
Oh, wow. Tout doit être ramené au nazisme, vite !
Allez !
Dès qu'on peut.
Ah oui, d'accord, c'est un podcast comme ça, d'accord, j'aime bien. Voilà, ça me donne marre.
Maxime, reste, c'est cool.
Voilà. Petit Pied, j'ai adoré ta dernière BD, Comment rater sa vie. Voter pour un dictateur, c'est déjà une bonne piste, non?
Mais c'est horrible comme question. Non, tu fais une blague de ton côté, moi je suis là comme ça en mode, oui, bonne blague.
Mais je te donne des idées pour tes strips.
En vrai, bonne blague. En vrai, bonne blague, je confirme.
Et enfin, il est le grand créateur et co-leader suprême du podcast 12 points spécialisé dans l'Eurovision. Et je peux vous dire qu'il n'attend pas les élections pour donner de la voix. Thomas !
Bonsoir !
Il n'attend pas les érections non plus d'ailleurs pour donner de la voix.
Bonsoir !
C'est pas le même podcast. Mais en tout cas, pour les casseroles, t'es habitué avec l'Eurovision, non ?
Oui, mais toujours moins que le président de la République.
Allez, bam.
Bienvenue à vous autour du comptoir. Avant de vous offrir une tournée générale avec des questions insolites sur les dictateurs, je vous propose un happy hour. Et j'imagine, ou j'ose espérer, que vous n'avez pas eu d'anecdotes liées à la dictature. Alors, je vais vous poser une question. Quelle serait pour vous votre première mesure de dictatorice, Lucie?
Bah moi j'abolis le patriarcat. Ok, yes. C'est bon.
Et tu le fais comment?
Bah, je le fais comment ça, c'est une bonne question. Parce que moi, j'ai pensé à l'idéologie, mais comment on met en pratique? Écoute, j'en sais rien. Tu veux devenir mon premier ministre dictateur?
Oui, j'aime bien. Là, on détruit le patriarcat. Vite, un homme premier ministre. Il nous faut ça. Comment on va y arriver sans un homme?
Petit Pied, le mec, il est journaliste et il me défonce mon programme alors qu'il est même pas sorti, quoi. C'est quoi? T'as grave raison.
Alors, toi, tu vas mal finir dans cette dictature.
Je veux bien JS à condition que tu te coupes. Ça te va pas?
Bah, je couperai sa réponse. En effet, ouais, abolir le patriarcat, je suis d'accord avec ça. Et vous, les gars, vous en pensez quoi?
Ouais, plutôt d'accord, hein, globalement.
Oh oui, moi, tu sais, le patriarcat. Voilà quoi.
Patriarcat.
Voilà, exactement, patriarcat.
T'as pas écrit des slogans tu sais, dans les manifs féministes, patriarcat.
J'en ai fait beaucoup avec
ouais,
toi d'ailleurs.
C'est vrai.
Mais Petit Pied a écrit un petit strip, une petite BD, un personnage que j'adore, Cacapitalisme.
Ah oui, oui, ah j'ai oui. fait. Oula, enfin, un personnage qui s'appelle comme ça.
C'est pas la petite orange qui s'appelle comme
si,
ça
Si, c'est le titre d'une BD où j'explique pourquoi le capitalisme n'est pas une méritocratie, voilà, tout simplement.
Et peux-tu nous le réexpliquer?
Bah,
regarde, on va te montrer la BD. Voilà.
Voilà, il y a 8 pages pour expliquer voilà. ça.
Non, mais parce qu'en podcast, montrer une BD, c'est quand même.
Non, mais c'est bien, c'est lisez la BD.
C'est ça, exactement, lisez la BD. Allez, sur Insta.
Eh ben, merci beaucoup, Lucie. À mort le
patriarcat.
Petit Pied, quelle serait ta première mesure de dictateur?
pour rester sur un truc à la fois sérieux et à la fois très stratégique en tant que dictateur, ça serait genre nationaliser tous les moyens de production. Parce que déjà, c'est cool, voilà, on n'a plus de riches. Et si t'es dictateur, l'avantage, c'est surtout de genre détruire la concurrence très vite. Donc, plus de riches, plus de problèmes, il n'y a plus que l'État et niquez-vous les riches.
Je trouve que toi et moi, on ferait un bon...
Ouais, et hein, ben ouais,
un
carrément.
Bon duo. Il resterait plus grand monde. Non, tu tues les riches.
Les hommes.
Non, les hommes et le patriarcat. Attention, ça n'est pas la même chose, d'accord ? Moi, je veux détruire le système. Et les hommes. Non, je rigole. C'est une blague.
On est un peu sérieux, là, quand même.
Ah ouais, c'est très
dis-nous,
sérieux.
Dis-nous, petit pied. Mais alors, je vote pour toi de ouf. Mais merci. Dis-nous un truc un peu plus fantaisiste, on
attends,
va dire.
Attends, faut que tu me laisses réfléchir.
On a le droit de vouloir buter tout le monde. Enfin, je vois pas, je vois pas le problème.
C'est fantaisiste.
Ah, ah, tu vois, on vient nous chercher. On va avoir des problèmes.
Elle est là. Attrapez-la.
Ah bah la délation, ça c'est dans une toute dictature qui se respecte, il y a une bonne délation.
Surtout en France, on a de l'expérience.
Ah oui, bah ça, on adore ça. Dire, ouais.
Tu veux qu'on fasse un tour et qu'on revienne vers toi, petit pied ? Très bien.
Non mais le pauvre, t'as qu'à dire que t'abolis les grands yep et puis voilà.
Waouh, wow, non mais c'est vrai, voilà, j'abolis les grands yep, voilà.
Très bonne réponse.
À quoi ça sert en vrai les grands pieds ? À rien.
Les orteils
à rien.
Déjà, ça sert
à
quoi ?
Rien, à part à nager.
À nager, oui.
Si jamais il y a l'eau qui monte.
Oui, ah, peut-être, c'est vrai.
Là, tu te dis.
De toute façon, non, mais ce qui serait bien dans ces cas-là, c'est d'avoir les orteils palmés plutôt que de. Tu vois.
Mais ça va avec.
J'ai un oncle qui a les orteils palmés d'ailleurs, mais
ah,
bon,
ouais,
c'est une autre histoire. J'ai pas...
C'est Picsou.
C'est
Picsou.
C'est oncle Picsou, oui, tout à fait.
Mais il nage vite ou pas, c'est ça ?
Bah, il paraît qu'il nage très bien, oui. Bon. Je l'ai vu deux fois dans ma vie, c'était pas à la piscine.
Bah, merci beaucoup, petit pied. Maxime, quelle serait ta première mesure de dictateur ?
Alors moi, je créerais une loi qui concerne les hommes à la masculinité toxique. Je leur interdirais d'avoir des beaux culs. Parce que en fait, c'est terrible, parce que je trouve que c'est un beau gâchis quand même, parce que ces hommes-là n'en font rien de leur cul, puisqu'ils n'acceptent même pas que leur partenaire leur mette un petit doigt. Donc je leur interdirais d'avoir des beaux culs, voilà.
Ou alors un doigt.
Je vais y venir. Donc c'est un système qui, comme dans toute dictature qui se respecte, reposerait sur la délation. Hein, voilà. Oh tiens, mon voisin fait des squats tous les matins et je l'entends proférer des propos machistes. Donc peut-être qu'il enfreint la loi. Il y aurait la milice, il débarquerait, tout ça, bien sûr, qui contrôlerait le tour de fesses. Et pour contrer cette mesure, il s'agirait voilà d'accepter qu'on joue avec ton anus. Voilà. Donc il y aurait des thérapies de conversion avec.
Conversion anale.
Voilà, d'introduction,
avec
tu veux
d'introduction,
dire.
D'introduction, voilà, avec des femmes qui viendraient te mettre des doigts sur Astatiem Pré.
Ah
voilà.
Non, non, franchement, c'est compliqué. Moi, quand j'étais petit, déjà, j'avais du mal avec le suppositoire, alors...
Oui, mais c'est parce que le suppositoire, c'est pas... C'est... Bah, le suppositoire, il t'invite pas à dîner, tu vois.
Alors qu'un doigt, oui.
Alors qu'un doigt, oui, bien sûr.
Mais ça ferait plein de nouveaux métiers, en plus, c'est génial.
Exactement,
quoi.
Tu vois,
bah
tu crées
oui,
le plein emploi, exactement. Ouais.
Voilà.
Des doigteurs.
Des doigteuses, des doigtereuses.
Voilà. Je serais très heureux et heureuse d'ailleurs de faire ça, voilà.
Pour l'instant, on est assez complémentaires tous les trois, je trouve.
Ouais.
Attention.
Pour l'instant, ça marche. On va faire la dictature de la Somme. On continue avec Thomas. Quelle serait ta première mesure ?
J'obligerais tout le monde à apprendre à danser la salsa. Parce que je trouve que c'est une danse qui fédère et qui rend joyeux. Et c'est quand vrai. On voit à Cuba, par exemple, tous les gens qui savent danser la salsa, dès qu'il y a un brin de musique, tout le monde danse dans la rue, peu importe vieux, grand, jeune, homme, femme, tous ensemble, et qui sont heureux de danser cette danse-là. Et quand on voit les soirées latino et tout machin, enfin franchement, c'est toujours bon enfant, joyeux, etc. Ben, j'imposerais que tout le monde eh ben, se mette à danser la salsa.
Okay.
Même les gens handicapés et tout. Quoi.
Ouais.
Même non, les gens en fait, dans le coma.
Non, les handicapés, ils prennent les photos pour Instagram.
Bah, tu vois, ça, c'est une bonne dictature parce que tu exclues une partie de la population. Voilà. Voilà.
Et ça n'est pas du tout handiphobe.
Voilà. Et puis les gens dans le coma, tu leur mets de la musique salsa dans les oreilles. Pour les, voilà.
Exactement.
Non, mais tu sais, tu pourrais faire un réveil salsa. Tu vois. Tout le monde est obligé d'avoir un réveil.
Non, genre carrément une tour dans la ville qui met de la salsa à 7h du mat pour tout le monde. Allez, on y va, on s'en rend danse. Y'a pas le choix.
J'aime bien.
Alors, pour résumer, dans notre dictature, on va niquer tous les hommes toxiques avec des petits pieds en leur mettant des doigts dans le cul avec un peu de salsa dessus.
Un peu de guacamole.
Un peu de guacamole pour les faire danser de la salsa. Et bien, sur ce, c'est la fin de la Piawa.
Déjà.
Mais je vous offre une tournée générale. J'ai été inspiré par les fumées révolutionnaires qui nous entourent. On sent bien que le gouvernement, au minimum, n'est pas au parfum de l'histoire. Alors qu'il nie les violences policières, le racisme systémique et envisage de couper les réseaux sociaux, il semble glisser vers un certain autoritarisme et installe un climat favorable au relent pestilentiel de l'extrême droite. Ça pue grave. Alors, avant d'aller rejoindre Isia en prison, et tout en n'oubliant pas les millions de morts qui leur sont imputés, j'avais envie qu'on se paye la tête de ces fous furieux. Et dernière précision, évidemment, si ce mois-ci on s'aventure sur une pente glissante, ce n'est non pas pour diminuer l'horreur des actes commis par ces monstres, mais plutôt pour aborder l'histoire d'un point de vue décalé et insolite. C'est ce qu'on fait dans l'Assommoir. Et enfin, comme disait Dario Fo, le rire libère l'homme de la peur, tout obscurantisme, tout système de dictature est fondé sur la peur, alors rions.
On n'a pas dit fais le cheval.
Je ris comme un cheval, ok. Accepte mon rire différent.
Êtes-vous prêts, mes chers piliers?
Oui,
oui.
Quel est le rapport entre les dessins animés Bécassine, le père Castor et les malheurs de Sophie?
Il y a des personnages qui ont la queue plate dans toutes ces séries.
Arrête de parler de ton oncle, c'est pas possible.
Ah, par leur popularité, on les a utilisés pour délivrer des messages pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Oh.
Sous le régime de Vichy.
Non.
Où ils ont été créés sous le régime de Vichy?
Non plus, petit pied, ils n'ont pas été créés sous le régime de Vichy. C'est en rapport avec leur production de ces séries.
Rappelle-nous, il y a Bécassine.
Bécassine, le père Castor et les malheurs de Sophie.
C'est la même boîte de prod.
Alors, le problème, c'est en effet la boîte de prod.
Le PDG était un pétainiste.
Ces trois dessins animés ont été produits quelque part dans le
Allemagne.
Monde. Non.
En Argentine.
Non.
Ah, Corée du Nord.
Et donc, petit pied?
Quoi?
Tous les dessins animés ont été produits en Corée du Nord.
Bravo, mais non, petit pied!
Bravo, ouais. Petit pied!
C'est un vrai truc de genre, il y a plein de dessins animés bon marché qui ont été produits du coup en Corée du Nord parce que c'est pas cher pour des raisons qu'on peut tous deviner ici, je pense.
Mais à quel moment on commerce avec la Corée du Nord?
Eh bah, il y en a beaucoup, hein, énormément.
Encore aujourd'hui?
Oui, encore aujourd'hui.
Mais non.
Quand tu vois des dessins animés, tu dis c'est vraiment mauvais. Comment ça a été produit, bah, Corée du Nord?
Absolument, ouais. Petit pied. Donc, ils sont produits par le studio qui s'appelle SEC, Scientific and Educational Film Studio of Korea à Pyongyang, et ça a continué jusqu'en 2005 officiellement, hein, ça s'est arrêté en 2005 avec la série qui s'appelle Foot de rue.
Oh, ça fait mal.
Donc c'est fini.
Voilà.
Ils ont arrêté de faire ça, quoi.
Ils ont arrêté et la filiale parisienne a fermé vers 2018.
D'accord. Vers 2018, 2024, quoi.
Ouais, c'est ça, on sait vraiment jamais, quoi.
Mais j'ai toujours trouvé que les personnages des Malheurs de Sophie, ils avaient un petit côté asiatique quand même.
Un petit côté Corée du Nord.
Et puis le père Castor, il fait très Kim Jong-un. Hein,
c'est vrai.
Arrête de salir mon enfance. C'est ouf. Ah, les malheurs, putain. Mais ils nous l'ont dit dans le titre, en fait. Oui. Ah, les cons.
Ils nous avaient prévenus. Ils veulent être juste dans la thématique, hein, c'est tout.
C'est pour ça qu'il y a autant de soins qui est apporté à Madame Fichini, tu vois.
Ah oui, c'est pour ça. Incroyable.
On reste en Corée du Nord.
Allez, s'il te plaît. Allez,
on est bien.
On reste en Corée du Nord, toujours.
Ah ouais.
Une fois que tu y es, tu peux plus sortir.
Ouais, c'est ça.
Donc, restons-y.
Ah, s'il te plaît.
Le culte de la personnalité, c'est quelque chose en Corée du Nord. Kim Jong-il, il aurait créé quelque chose d'extraordinaire qu'on mange tous. Qu'est-ce que Kim Jong-il a créé?
C'est lui qui a inventé le quinoa. Putain, j'en étais sûr que c'était une connerie comme
Kim
ça.
Kim Jong-quinoa.
Ça arrive de nulle part. On en parle quand même du quinoa? Ouais, qui a été élevé au quinoa ici? Personne. Et le truc arrive comme ça, sur les étalages, genre
c'est
en mode...
Vrai.
Ah, ça c'est la
génial.
Corée du Nord. En plus, c'est arrivé quand? Hein?
Mais oui.
Au moment des malheurs de Sophie? Ah, c'est sûr. Putain. On a trouvé.
C'est tellement logique. En fait, justement, moi, c'est en 2018 que j'ai commencé à manger du quinoa, tu vois. Au moment où ça s'est arrêté, les séries.
Ils pouvaient plus faire foot de riz, ils ont fait du quinoa, quoi.
Putain.
Kim Jong-il a créé le quinoa. Ouais,
c'est
non.
Incroyable.
Alors, c'est pas ça.
Ah, quel dommage.
Oh,
ah, je trouve que ça tenait bien la route.
C'est une recette ou pas?
C'est un plat, on peut dire.
Qu'on mange en France.
Ah, qu'on mange en France partout dans le monde, mais c'est Kim Jong-il qui l'a créé en 2000. Soi-disant.
Respect, en tout cas. Est-ce qu'on est sur un truc fast-food un peu burger?
Absolument, petit pied.
Burger?
Oui, bravo.
Allez,
petit pied.
Faux archi-faux. Mais il a pas du tout inventé le burger. Non mais il faut qu'il sorte, il faut qu'il voyage,
ouais,
ce monsieur. Il faut qu'il sorte
tout,
de son
hein.
pays.
Je suis d'accord, ça
mais
va pas du tout. Écoute,
c'est
Charles
pas
Ingalls qui a créé le burger. Il s'en con, quoi.
Il a créé le... Je m'excuse pour tous les Coréens qui nous écoutent, mais en tout cas... Le...
Alors, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Nord-Coréens qui nous écoutent, mais c'est gentil de penser à eux.
Il a créé le Goji Gyejongbang.
Oui.
Ah ouais.
Voilà, qui est le burger.
Et
voilà.
Qui rapporte notamment 32 points au Scrabble, c'est une place sur un mot comme ça.
Il a créé le Scrabble aussi, sans doute, Kim Jong-il.
Ah oui, bah ça m'étonne pas.
Voilà. Allez, on quitte la Corée.
Ah,
oh non.
Oh, dis donc.
Ma préférée.
Mon visa était encore valable.
Selon vous, qui est Alois Schickruber?
Un compositeur.
Non.
Est-ce que la personne est vivante?
Ah non, il est décédé depuis longtemps.
Est-ce qu'il fait de la musique ou elle fait de la...
Non, il a jamais fait de musique.
Est-ce qu'il fait de la cuisine?
Non, pas de la cuisine.
Bah, peut-être qu'il a fait de la cuisine une fois dans sa vie quand même. On sait pas.
Donc il était marié avec une femme qui faisait de la cuisine.
À mon avis, c'était ça dans la famille. Moi, j'aime pas trop cette famille. Hein.
Est-ce qu'il était contemporain du robot mixeur?
Non, pas du tout.
Ah, donc il date d'avant 1960.
Est-ce que c'est de la famille d'Adolf Hitler?
Eh ben, exactement.
Est-ce que c'est son neveu?
Non. Alois Schickruber.
Est-ce qu'il a eu un rapport familial proche avec Adolf Hitler?
Ah, bien sûr, mais très proche. Tu peux pas faire plus proche.
Ah, c'est son, bah, frère. Son frère.
C'est son fils.
Non. C'est son père.
C'est son père. Bravo, Maxime.
Mais alors,
Alois
le...
Schickruber est le père d'Adolf Hitler.
Incroyable. Mais qui est Alois
Schickruber? Eh ben écoutez, c'est un petit gars qui a eu une vie pas facile et il connaît pas très bien sa famille. Et un jour, en 1877, il décide de changer de nom de famille pour toucher l'héritage de son oncle qui s'appelle Johann Georg Jedler.
Ok.
Jedler.
Qui ressemble étonnamment à Hitler. Vous suivez ou pas? Car vraiment, il faut se concentrer pour comprendre cette histoire.
Et là, rebondissement, il y a deux versions de l'histoire. Les historiens se tirent la bourre pour savoir comment Hitler s'appelle Hitler. Parce que la première version, c'est quand Alois Schickruber est allé voir le notaire pour changer de nom en Jedler en 1877, apparemment, le notaire se serait trompé et aurait compris Hitler.
Mais alors,
et non pas Jedler.
À l'état civil, quand à l'époque les livrets de famille étaient faits à la main, il y a eu énormément d'erreurs ça de gens. Parce que moi je sais que dans ma famille par exemple, ça a été le cas. Et bah du coup cette histoire est passionnante.
Encore un point commun avec Hitler. Ah. Quelle chance.
Je parle encore de ma famille, j'ai une de mes grandes tantes, voilà, quand elle est née, c'est mon arrière-grand-père qui allait à la mairie et quand ils ont demandé comment elle s'appelle la petite, il savait plus. Il dit merde.
Mais non.
C'est pas vrai.
Merde, on avait dit quoi? On avait dit
donc
quoi?
Donc il s'appelle
merde.
Et
du coup
quoi.
Il a dit un truc au hasard comme ça, voilà, c'était pas ça à la base, mais finalement ils sont allés avec.
C'est pas clair.
Ah, c'est pas clair du tout.
Ou Hitler, on sait oui, pas finalement.
Et donc, puisque je vous sens hyper intéressé, la deuxième version des historiens, apparemment ça serait la plus probable, c'est que Jedler, ça veut à peu près rien dire en allemand, mais par contre
Hitler
ça veut dire charpentier. Non, attends, là, faut pas que je me trompe. Hein.
Ah, surtout
oui,
pas.
Oui, c'est ça. C'est,
ouais, un là. Peu de respect à Hitler, quand même. Franchement. J'ai des limites, ok.
Un peu de respect à tous les fans d'Hitler, quand même, parce que merde.
Il y en a de plus en plus, surtout. Ouais, grave.
Fais bien attention à toi.
Alors oui, c'est bien ça. Hitler veut dire charpentier en Bavière. Et donc, il aurait voulu s'appeler charpentier plutôt que Jedler, qui ne signifie rien. Donc c'est ouf parce qu'on aurait pu avoir Adolf Schickruber.
Mais tu sais, je pense que ça aurait beaucoup moins fonctionné parce que quand tu ne peux pas prononcer le nom du gars, il est, d'un seul coup, il est beaucoup moins populaire et beaucoup moins... Voilà.
Bah puis surtout, on aurait galéré dans nos devoirs de
collège. Comment ça s'écrit?
Comment ça s'écrit?
Tu vois, il a dit le nom de famille il y a 15 secondes, je l'ai déjà oublié, ça n'arrive pas, ça ne s'imprime pas dans mon cerveau. Hitler, on me l'a dit une fois, ça a suffi, tu vois.
Alors que moi, pas du tout. Moi, je pensais que c'était éclair. Parce que mon père me racontait l'histoire et je disais, le mec s'appelle Éclair et un chat.
Alors attends, ton père te racontait les histoires d'Hitler? Éclaire-moi
The Mein Kampf, tous les soirs avant de dormir, voilà.
Merde.
Il était une fois.
Mais qui est mon père?
Parce qu'il y a Martine à la plage, il y a Martine à la campagne, il y a Martine fait du cheval, et il y a Hitler aussi, voilà. Hitler à l'Opéra Garnier, tout ça.
Excusez-moi d'avoir un père qui m'a prévenu, il m'a dit le monde, bon, et parfois c'est un peu chelou, quoi, il y a Éclair, du coup il m'a dit Éclair. Et après, en quatrième, quand j'ai vu écrit, ouais, je sais, c'était un peu tard, je me suis dit, ah putain, en fait, c'est Hitler, tu vois. Voilà.
Ah waouh,
le gâteau, l'Hitler au chocolat, au café, tout ça. Du coup, tu demandais une religieuse, toi. Là. À l'inverse, je pensais que la fermeture Hitler, c'était la fermeture Hitler.
Ah oh.
Et du coup, je ne demandais que d'avoir des fermetures à boutons.
Waouh, ça c'est du vrai antifascisme, vraiment. Un beau combat.
Militant depuis ton plus
jeune
âge.
C'est très beau, Maxime, vous adore. Et si on restait sur Hitler un petit peu?
Je trouve qu'on a manqué. Il m'a manqué.
Là, on était quand même un le peu boss, en manque. Ouais.
Oui, c'est le boss ultime.
C'est le boss final.
Le boss
final.
Le
boss de fin. Eh bien, Hitler a été le premier à créer une loi qu'on continue toujours de vivre et d'appliquer en France, de quelle loi s'agit-il ?
Est-ce que c'est un rapport avec le fuseau horaire ?
Ah non, du tout.
Ah.
Ni avec le fusain, parce qu'il était dessinateur.
Hitler a fait une loi que nous appliquons en France.
Est-ce,
oui.
Est-ce que c'est un rapport avec le pantalon ?
Ah non, pas du tout.
La moustache ? Non.
Non, moustache pour tous.
Avec la culture ?
Non, on l'a appliqué en 91 en France.
La clope ?
Et donc, ma Lulu ?
Interdiction des cigarettes dans les lieux publics.
Absolument, oh Lucie, bravo ma Lulu.
Et ben merci, merci Hitler.
Je trouve qu'on le dit pas assez.
Ça sera monté et déformé. Oh, bah tu vois, c'est pour ça que je fume, c'est parce que je suis anti, tu vois, fasciste jusqu'au bout, quoi.
Je
voilà.
comprends mieux maintenant.
Tout prend.
C'est politique.
C'est politique. Donc Hitler a créé toutes les lois anti-tabac en 1930.
En fait, tu veux dire que Hitler, il a tué 8 millions de personnes, mais il a sauvé.
Mais finalement.
Le mec, en fait, il a sauvé des millions de gens.
Ouais.
C'est horrible, ton anecdote, elle est horrible. C'est horrible.
Elle est horrible.
Et il est décédé avant de le savoir, t'imagines.
Bah, il est parti en fumée.
Il est parti en fumée, ouais, ouais. C'est vrai.
S'il
ouais.
avait su voilà. qu'il avait sauvé autant de gens.
Et en fait, c'était un fumeur compulsif. Jusqu'à ses 30 ans, il fumait 40 cigarettes par jour.
Ah
oh,
ouais.
Putain,
ah ouais,
t'as un même. Dommage qu'il ait pas continué.
Ouais, 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 exactement, voilà, dommage. Ouais. Et si tu veux, il a chargé une équipe de médecins qui ont été les premiers dans le monde entier à établir la corrélation entre la cigarette et le cancer. Et ils ont même inventé le mot « passive rauchen », qui signifie
« power bottom ».
Ah, fumage passif.
Le tabagisme passif.
Absolument, voilà, petit ah, pied, bravo ouais. Maxime. C'est ça, c'est le tabagisme passif qui, en 1930, avait déjà été établi par les médecins dégénérés d'Hitler. Quoi.
D'accord, mmh. Ouais,
au même moment, où, aux États-Unis, on disait « Non, fumer, c'est bon pour la santé ». Il y avait des médecins qui... Tu vois, voilà.
Ah.
Alors, on va arrêter avec Hitler pour un moment, s'il vous plaît.
Oh,
oh non,
franchement,
oh,
franchement, on est un peu déçus.
Bon, mais on va passer à un autre qui s'appelle Staline.
Oh, c'est oh bien aussi. C'est bien aussi, Staline.
Allez, trinquons.
Nazdrovia. Qu'est-ce que Staline faisait pendant 6 heures par jour ?
Du sport.
Non.
De la masturbation.
Non,
il aurait dû. Il aurait
il
dû.
Il aurait dû.
Il aurait dû. Parce qu'en vrai, une fois que tu t'es branlé, tout va mieux.
Oui.
Voilà, oui. Tout va mieux. Voilà, tu arrêtes d'avoir des idées complètement perverses et complètement dérangées. Tu t'es branlé, voilà, tu vas te doucher et puis tu commences ta journée tranquille.
Bon, bah, je reviens. Non, pendant 6 heures par jour, petit pied, une idée ?
Une activité physique ?
Non, enfin, physique, oui, ça.
Il
oui.
mangeait.
Bravo, Thomas !
Il mangeait pendant 6 heures ?
D'affilée ?
Absolument, oui. Oh, ses repas duraient 6 heures.
Mais attends.
Bah, excuse-nous, mais enfin, on est français, hein, j'ai envie de te dire.
Le petit déj, une heure. Le voilà. déjeuner, deux heures.
Voilà, donc on
le
est à trois.
Le dîner, trois heures.
Ça
le goûter,
t'as
le goûter, une heure.
Ouais.
L'apéro.
Le petit Staline, là, il nous fait pas peur. Hein.
Bah, alors.
Hey, on est français, nous, monsieur. Hein, 8 heures de repas par jour, c'est rien. 6 heures, encore moins.
Est-ce qu'on peut avoir Maïté qui sert quelque chose à Staline ?
De l'ortolan ?
Par exemple, vas-y.
Hé, hey, mon petit Staline, tu vois, je vais te faire un repas, tu vas me dire les nouvelles.
Oh, bon, merci, vous pouviez être à ma place.
Rouge, bien sûr.
Oh,
oh, oh. Mais du coup, en effet, il mangeait pendant 6 heures par jour sans s'arrêter. Et en fait, c'était devenu un problème parce que tous ses amis dictateurs qu'il invitait, par exemple Tito...
Vomissait.
Bah, exactement. Ah bon ? Et en fait, Tito vomissait parce qu'on ne pouvait pas se lever, évidemment, dans ses repas. Et il vomissait dans sa manche de veste pendant le repas.
Oh
ouais, discrètement. Voilà, t'imagines la gueule des poupées russes. Allez, on va rester avec Staline.
Ah oui, s'il te plaît.
À table, évidemment.
Allez, à table. On est à table, hein, déjà.
Qui était le cuisinier de Staline ?
Jean-Pierre Coff.
Bah, Maïté.
C'est de la merde. Il a vomi dans sa manche, le connard. Mais c'est dégueulasse, enfin, écoute.
Je lui file des trucs bio, il me vomit ça dans la manche.
Oh, tu fais Jean-Pierre Coff aussi ?
Bah non, pas vraiment.
En fait, tu fais tous les spécialistes de la cuisine, quoi, Jean-Pierre Coff.
Ah ouais,
tu nous fais Marc Verratte, le chapeau aussi.
Je sais pas qui.
Stéphane Rothenberg.
Ça, je sais qui c'est, mais il n'est pas du tout cuisinier, ok ?
Bah, non, c'est le mec qui vend les appartements.
Non,
non,
c'est lui qui est top chef.
Stéphane Rosenberg, mon ami, top chef.
Ok.
Ils s'appellent tous Stéphane en fait. Il y a Stéphane Bern.
Mais oui.
Pour réussir dans la télé,
il faut s'appeler Stéphane.
Il y a Stéphane Laurent Ruquier. Il y a Stéphane Thierry Ardisson.
Et Stéphanie de Monaco.
Stéphanie de Monaco,
bravo. Donc, qui était le cuisinier de Staline?
Mais attends, on peut le connaître?
Comment on peut connaître un gars qui est aussi vieux et qui est cuisinier? J'ai aucune rêve là-dessus.
Ouais, c'est chaud. Hein.
Alors, en fait, on connaît plus le fils de ce cuisinier.
Ah!
D'accord.
Est-ce qu'il est français?
Cet homme-là n'est pas français, il est russe.
Il est russe, bon.
Mais il est cuisinier aussi.
Et son fils, qu'on connaît tous, n'est pas cuisinier. Il est même, on peut dire, dictateur.
Ah, Poutine, le papa Poutine.
Bravo, petit pied.
Mais alors, est-ce que c'est lui qui a inventé la Poutine?
Non, mais tout prend sens.
C'est incroyable.
Le père de Vladimir Poutine s'appelait Spiridon Poutine et il était le cuisinier de Staline.
Wow.
Et pas que. En fait, il a commencé ses œuvres... ses hors d'œuvre pour Lénine.
Ok. Après, le mec, il était spécialisé.
Ah bah dans la cuisine, ouais.
Non mais dans le dictateur.
En même temps, la Russie est spécialisée dans le dictateur aussi. Voilà.
C'est vrai.
Évidemment,
c'est
si
vrai.
Tu veux cuisiner, voilà.
C'est vrai.
C'est ça le problème.
Et du coup, à la mort de Lénine, il est devenu le cuisinier officiel de l'épouse de Lénine, puis de Joseph Staline. Voilà.
D'accord.
Spiridon Poutine.
Ah bah Spiridon. Alors,
ça... Spiridon. Ouais.
Un prénom assez commun à l'époque.
J'appellerai mon fils comme ça, Spiridon Farrer, c'est très joli.
Faudra pas lui dire d'où ça vient, juste.
Oh Ça vient juste de l'amour de la bonne cuisine, voilà.
L'amour du goulash. Et du coup, je me
Quelle
suis.
Quelle famille.
Et je me suis demandé quel était le plat préféré de Poutine, tu vois. Sait-on jamais.
La Poutine, évidemment.
Sait-on jamais, ouais, des c'est fois que tu l'es à la maison, tu vois.
Ah ouais, ça pourrait
si
arriver.
Si jamais il a une allergie aux arachides, tu vois, qu'on fasse pas un truc aux cacahuètes, tu vois.
Ah, ce serait malheureux.
Bah oui, dis donc. Alors.
Quel est le plat préféré de.
Préféré de Poutine.
Alors, attention.
Ah, tu le connais, c'est une vraie question.
Ah oui, oui, oui.
Ah oui, d'accord, ok. Alors, attends.
Ah,
bah,
je me suis renseigné.
Le burger de Corée du Nord.
Non, c'est un dessert.
Est-ce que c'est à base de blé?
Est-ce qu'il y a de la viande dedans?
Bah, non, dans un dessert, dessert. Maxime.
Bon, ceci dit, Joey Tribbiani, les petits pois sont bons, la
oui,
viande
voilà.
est bonne.
La viande est bonne.
C'est un dessert. Est-ce que c'est un dessert qu'on mange en France?
Oh oui. Et en fait, je dois vous dire, j'en raffole.
Il y a des œufs?
Ah oui, il y a des œufs dedans, oui.
C'est un flan.
Une de nos meilleures amies en fait régulièrement.
Des glaces.
Oui.
Ah ouais?
Des glaces.
Des okay. glaces.
Le dessert préféré de Vladimir Poutine, le Mr. Freeze framboise, le bleu.
Le rouge.
Et bah tu vois, moi j'ai toujours détesté ça. J'ai toujours détesté ça, le Mr. Freeze, parce que c'est chiant. En plus, t'as les mains gelées pendant que tu le manges. Moi, ça m'emmerde, le Mr. Freeze.
Plaisante.
Bah, et le sopalin?
Mais t'as pas toujours du sopalin sur toi.
Parfois, et bah tu te débrouilles.
Parfois, tu prends une chaussette. Voilà.
Ok, ouais, donc glace. La glace,
c'est une glace.
Quel parfum?
Fraise.
Non.
Framboise.
Pistache.
Bravo,
ah
petit pied du premier coup.
Ah ouais, mais ça, c'est
en fait, c'est ma préf. Du coup, voilà.
Moi aussi, moi
petit malaise.
T'as un point commun avec Poutine.
C'est ce qui me manquait.
Après, la glace pistache, c'est bon.
Ben oui, justement.
C'est vraiment bon, mais attention à ce que tu dis maintenant.
C'est un homme de goût. Hein.
C'est un homme de goût, ouais.
Ben en fait, la meilleure façon, c'est de la mélanger à du cyanure, par exemple.
La mort aura, c'est indépendant.
Pourquoi personne n'y a pensé?
Bon, bah écoutez, je propose qu'on fasse une petite pause pipi.
Alors, pipistache.
Oh!
Fallait faire une blague jeu de mots à un moment, je sentais que c'était l'ambiance.
C'était le moment, là, tu l'as senti, il fallait nickel.
À point nommé.
On va se parler d'une femme que j'adore, qui s'appelle Margot Volk. Margot Volk.
C'est ta mère, non?
Maman, tu es parmi les dictatrices pour moi.
Ton oncle,
pas.
Toi.
Le mec a des comptes à régler avec sa mère, tu vois, il est salué.
Bah, j'ai pas une femme que j'adore.
Une vraie dictatrice à mes yeux, pire que les autres. Maman, j'espère que t'écoutes ça.
Elle me disait, tant que t'as pas fini tes haricots verts, tu ne sors pas de table. Voilà.
Si ça, c'est pas la
J'en
dictature.
J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre si tu vomis dans ta manche. C'est pas mon problème.
C'est elle.
Non, c'est Margot Volk, une femme que je ne connais pas personnellement et qui est décédée malheureusement. Une femme courageuse qui a été très proche d'Hitler. Ah oui, on revient à lui.
Ah bah tu vois finalement.
Alors que revoilà la sous-préfète.
Petite escapade en Russie qui se redirige gentiment vers l'Allemagne.
L'Europe est riche, l'Europe est riche.
Ah oui, l'Europe a failli devenir très riche. Hein. Évidemment, contre sa volonté, elle était proche d'Hitler, bien sûr. Mais pour quelle raison était-elle vraiment très, très proche d'Hitler?
C'était sa voisine de palier.
Oh, c'est génial. T'imagines la fête des voisins?
J'ai ramené du taboulé, ya.
Est-ce qu'ils avaient un lien de famille?
Non.
C'était son habilleuse.
Alors, elle a exercé une fonction, mais pas son habilleuse, elle a exercé une fonction...
La cuisinière, la coupeuse de légumes du chef cuistot.
J'ai pas dit qu'elle s'appelait Julienne, j'ai dit qu'elle s'appelait Margot Volk.
Ah, oh, c'est beau.
Alors oui, elle avait une fonction type culinaire.
Type culinaire.
La goûteuse.
Elle goûtait les plats.
Bravo, Petit Pied, c'est toi. Désolé, Thomas, c'est Petit Pied qui a eu la bonne réponse.
Et c'est comme ça qu'elle est morte.
Et non. Ah. Justement, voilà.
Comme quoi, finalement, personne n'a essayé d'empoisonner Hitler.
C'est l'histoire.
Personne n'a essayé d'empoisonner ni Hitler, ni Poutine, ni... C'est fou, quand même.
Alors
c'est
que fou. Poutine, maintenant, on sait. Du cyanure dans la glace à la pistache.
La glace à la pistache, voilà.
À chaque fois, il y avait un grand tas de glace, ils savaient pas dans laquelle la mettre, tu vois, ils étaient bon, mais dans les fraises et la vanille, on va voir si ça marche et tout, à chaque fois, ils sont, putain, mais ça marche jamais, il y a des gens qui meurent, on veut pas qu'ils meurent. C'est laquelle, bordel de merde, quelqu'un la connaît?
Alors, en effet, Margot Volk, on va se parler un petit peu d'elle si vous voulez bien, on va lui rendre hommage parce que pour le coup, elle a été connue pour être, comme tu l'as dit, Petit Pied, la goûteuse d'Hitler.
Elle goûtait Hitler ou les plats d'Hitler?
Oh mon dieu!
Ah merde!
Ah, ah bah aujourd'hui c'est un petit peu salé, dis donc!
Ah, ah, faut que tu manges de l'ananas! Alors, je vais vous raconter son histoire. Elle a 25 ans et elle vit seule à Berlin parce que son homme est parti à la guerre. Et elle a été arrêtée par les SS. Et de force, elle est devenue la goûteuse d'Hitler parmi 15 autres goûteuses.
Ah ouais, ah, c'est voilà. Une obligation, quoi.
Ah oui, oui, oui. Et donc, elle a été forcée à bouffer. Et il y a un truc qui m'a rendu hyper triste quand j'ai lu son histoire. C'est qu'elle disait quand elle mangeait, à la fin de ses repas, 2 heures plus tard, quand elle était encore en vie, elle pleurait.
Oh.
Ah ouais.
Ah, parce qu'elle était soulagée d'être encore en vie.
Absolument, ah, Thomas. Ouais. Voilà.
Et elle est jamais morte.
Elle est jamais morte. Elle est morte à 92 ans.
Elle est morte un jour. Hein.
Et elle a fini sa vie où? C'était. En fait, elle était juive.
Ah non, pas du tout. Ah non. Même pas.
Genre, ils l'ont choisie comme ça au hasard.
Bah
quoi.
Oui, parce que c'était une femme seule. Et donc, du
oh
coup,
là là.
Ils l'ont, ils l'ont
un
chopé.
Écrit un scénario sur elle, je t'en supplie.
Oh putain, comment elle s'appelle?
Margot Volk.
Margot Volk, je vais faire un truc.
Elle a dit un truc qui me fait un peu sourire. Vous connaissez le régime alimentaire d'Hitler, il était...
Végétarien.
Ouais. Oh, je vois qu'il y a des fans d'Hitler ici.
j'ai révisé.
Et donc, il était végétarien et elle a dit un truc. C'est qu'elle a dit, j'avais l'impression d'être un lapin de laboratoire. C'était Margot Volk. Hommage à Margot.
Super Margot.
Volk.
Bravo Margot.
Bravo à elle, ouais. 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 Mais du coup, elle mangeait gratos quand même.
Franchement. Et après, elle se plaint quand même.
Ça va quoi?
Ouais, je mange gratos.
Donc, elle a économisé quoi? 4 ans de bouffe.
Ça même va. Pas un ticket resto d'utiliser.
Et
hein,
ce
non,
qui,
mais...
avec l'inflation de l'époque, est beaucoup.
Est beaucoup.
Encore une vie sauvée par Hitler, tu vois. Vraiment,
Mais décidément.
Je pense qu'elle n'avait pas le droit de fumer pour bien profiter du goût des aliments, tu vois.
C'est sûr.
Ces vannes me restent au travers de la gorge.
Je comprends.
Oh.
Je vous emmène dans ma patrie.
En España.
En España.
En Franco.
Franco.
Aïe, aïe, aïe.
Dans les années 60, Franco a lancé un grand concours national qui fera date jusqu'à maintenant. Quel a été le concours original qu'il a lancé en 1960?
J'allais dire Miss France, mais je viens de me rendre compte que c'est complètement stupide pour des raisons évidentes.
Non, c'était Miss Franco. C'est-à-dire que c'est la femme. C'était l'élection de la femme qui ressemble le plus à Franco.
Génial, c'est génial. Est-ce que c'est un rapport avec la nourriture?
Absolument, Thomas.
C'était tous des gros bouffeurs, finalement, ces dictateurs. Hein. Ça aimait bien la...
Bouffon.
Aussi.
Oh, aussi. Oui, c'était des gros bouffons, absolument.
Aussi, oui. Ouais.
Je me souviens plus de la question.
Alors, en 1960, Franco a lancé un concours national.
Ok.
Quel était ce concours?
De la meilleure paella.
T'es proche parce que la paella a été gagnante. Et donc, quel était
le meilleur plat typique espagnol?
Bravo Thomas!
Bravo Thomas!
Wow.
Voilà, tu gagnes la paella géante!
Trop content!
La moule, elle est pour toi!
Il n'en fera rien, il la laisse sur le côté, c'est terrible!
Et alors, quel est le plat qui a remporté la victoire?
La paella!
On dit pas paella, ok? Vas-y. Comment on dit?
Vas-y, Maïté!
Je sais plus comment on dit.
Paella!
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 Paella! Putain, mais paella, en fait, ça veut dire paella, pas elle! En fait, non. C'est un plat sexiste.
Oh non, pas la elle meuf... Oh non. Oh merde.
C'est la meuf militante jusqu'au bout. Du coup, hein, les Espagnols sont sexistes. Hein. Et francophones.
Et franco.
Et pourquoi est-ce qu'on dit pas la paillelle?
Voilà. La paillelle. Parce que paella, en fait, ça veut dire la poêle en valencien. Ah. En, voilà. Et donc, du coup, c'est
la grosse voilà. Poêle.
Voilà. Et donc, quand on mange une paella, on mange une poêle.
À ne pas confondre avec le poêle sous le bras, bien sûr.
Ou dans la main.
Ou dans la main.
Ah, ça dépend où tu l'as.
Parfois, c'est entre les dents. Hein.
Non, mais c'est poêle. On dit une poêle, on dit pas une poêle. Vous dites poêle?
Personnellement, je dis une poêle. Voilà.
Ouais, moi aussi, je dis une poêle, hein, désolé.
Mes amis. En effet, Franco est à la recherche du plat qui réunirait d'abord tout le pays.
Ah, c'est beau hein, ça.
Et ensuite qui serait un étendard pour le tourisme. Et il a élu la paella parce que ça réunit toute l'histoire de l'Espagne avec le riz qui a été introduit par les Maures au XIIIe siècle et la couleur, le safran avec le riz safrané qui rappelle
le drapeau espagnol.
L'étendard. Oh, bravo. Et donc c'est le jaune et le rouge avec les poivrons et la tomate. Non.
Et la crevette.
Et le chorizo.
Ah non, ma
chérie. Et le chorizo. Il y a pas de crevette dans la paella?
Ah ma biche, ça c'est la paella.
Excusez-moi, pardon.
Marinera. Là tu parles de la celle qui vient de la mer, mais
oui. Voilà.
Mais c'est bien parce qu'il a réuni enfin, mon dieu, j'arrive à dire que c'est non, bien
mais...
Franco.
Ouais, c'est vrai que c'est chaud. Mais c'est market quoi.
Ah oui, c'est marketing. Hyper à fond. Marketing.
Il faut séparer l'homme du gourmet apparemment.
Bah, il faut séparer l'homme du marketeur.
Mais
aussi,
c'est très
oui.
Bon, la paella.
Oui, parce que quand t'es trop marketeur, t'es plus humain de toute façon, donc
exactement. Voilà, faut
autant séparer l'homme. Hein.
On va quitter l'Europe et je vous emmène en Afrique.
Allez.
Ah, c'est bien.
Je suis tombé sur un dictateur qui s'appelle Robert Mugabe. Est-ce que vous le connaissez?
Bien sûr.
Robert Mugabe, en 2010, il a envie de soigner son amitié avec les autres dictateurs et il envoie partout à ses amis dictateurs des cadeaux et notamment à Kim Jong-un. On revient au début de
la construit. Ouais, grave.
Il envoie à Kim Jong-un un présent. Quel cadeau offre Robert Mugabe à Kim Jong-un?
Des frites pour aller avec le burger.
Ah, ils sont arrivés toutes rassis, quoi. Parce que bon,
froide.
Le voyage est long.
Surtout froide.
Ouais. Ouais, c'est ça.
Est-ce que ça se mange?
Comment répondre? Quand tu sauras la réponse...
Ah, ça se mange.
Ok, d'accord.
Oh, t'imagines?
Bah écoute, t'avais l'air d'hésiter. Quoi.
Ah bah, dans ces cas-là, on hésite toujours. Hein.
Non, c'est, du coup, c'est biologique. C'est pas quelque chose. Ouais. C'est un objet, quoi.
Non, c'est pas un objet, c'est okay. Même du vivant.
Est-ce que c'est une corne d'éléphant? Enfin, une défense, du coup.
T'es dans le thème.
C'était un rhinocéros, peut-être.
Ah oui.
Alors, oui, c'est en rapport avec des animaux. Qu'est-ce qu'il a offert à Kim Jong-un?
De la viande de rhinocéros?
Non.
Est-ce qu'il a envoyé un animal vivant?
Plusieurs.
Plusieurs.
Bah, plusieurs rhinocéros. Et des girafes.
Qu'est-ce qu'il lui a offert?
L'arche de Noé.
Bravo, Thomas!
Mais non!
C'est vraiment ça?
Oui! T'es pas sérieux!
Il a voulu offrir à Kim Jong-un l'arche de Noé.
Mais t'es pas sérieux!
Mais si!
Il y avait le bateau avec ou pas?
Non, c'est parti en charter en plus. C'est
ouais, le mec il a offert un charter de Noé quoi!
Ah ouais!
Non, mais moi il y a jamais un mec qui a fait ça pour moi. Limite, c'est tout juste si on m'a offert des fleurs quoi, tu vois, mais. L'arche de Noé, jamais quoi. J'ai grave le seum.
Il a envoyé des tonnes et des tonnes d'animaux qui proviennent du Zimbabwe. Et par contre. Tout le monde lui disait, mais attention, parce qu'en fait, bon, déjà, c'est une connerie, parce qu'il y a plein de mâles. Enfin, il a fait n'importe quoi, quoi.
Le lion, il a fait tout le monde.
Très mauvais en biologie.
C'est ça. Putain, le mec a jamais joué au professeur Layton, hein, parce que franchement, tu vois.
Il y avait la chèvre, le chou et je sais plus quoi.
Eh ben, évidemment.
Et le cul de la crémière.
On leur disait que les éléphants allaient mourir, en fait, pendant le voyage. Et en effet, quand Kim Jong-un a retrouvé le charter de Noé. Ben, quasiment la moitié des animaux étaient morts, quoi.
Bah, ouais.
Et là, t'as Tim Jong-un, il dit, mais pourquoi il m'a envoyé des animaux morts, ce con?
C'est pour ça qu'il est devenu dictateur, en fait.
Qu'est-ce qu'il veut me dire?
Il a cru que...
C'est la guerre, en fait.
C'est la guerre, je vais tuer toute ta famille.
Je vais te fumer, toi.
Ah non, mais moi, je suis trop sensible aux animaux pour que ça me fasse marrer.
Bah oui, moi aussi, je suis d'accord.
Mais
et surtout, en fait, Mugabe, il a continué son délire à envoyer des animaux un peu partout, et notamment aux États arabes unis, tu vois, il a envoyé plein d'éléphants, de trucs, enfin... Voilà, c'est un dingo.
En fait, je suis abasourdi par la connerie.
Ah, je déteste Abba. Ne parle pas de ça, s'il te plaît. T'es toujours obligé de ramener tout à l'Eurovision, c'est terrible. Hein.
Ouais, c'est le marketing qui veut ça.
Et attention, la dernière question de la tournée générale.
Ah, oh. Oh, déjà.
J'avais envie qu'on se parle des dictateurs et de la musique. Parce que je me suis demandé, qu'est-ce qu'ils écoutent? Eh bien, justement, Oussama Ben Laden était un féru de musique.
On l'avait oublié celui-là. Ah ouais.
C'est vrai.
Il était hyper mélomane et le plus inquiétant avec ça, c'est qu'on partage vraiment les mêmes goûts avec Oussama Ben Laden.
Merde.
Quels sont les trois groupes préférés de Oussama Ben Laden?
David Bowie, Marilyn Manson.
Oh putain.
Non, yes. Nirvana.
C'est des groupes.
Donc c'est deux groupes américains, okay. Et une chanteuse américaine aussi.
C'est que des Américains donc.
Alors ça c'est fou.
Mais non, parce qu'il a fait ses études aux États-Unis.
Oui, mais en fait pour un mec qui défend tout sauf la culture américaine.
Absolument.
Est-ce qu'il y a Nirvana dans le lot?
Non, on est plutôt sur les groupes des années 70-80.
D'accord.
Oh bah mes rêves, hein, de toute façon ma jeunesse. J'appelle ça comme ça moi, bien sûr.
Alors petit pied, si je te dis hard rock, assez enfin c'est assez ténu justement,
c'est assez
en
fait.
Allez. Oh. Joli, on valide.
C'est des petits groupes un petit peu confidentiels, un petit peu underground, c'est ça?
Si je vous dis, c'est un guitariste qui porte le nom du groupe.
Evanescence.
Van Halen.
Bravo Van Halen. Maxime, Van Halen, ça c'est bravo. De la culture,
putain,
bravo.
Je l'ai pas.
Ensuite, le deuxième groupe, écoutez, je vais vous donner un indice. J'ai envie de chanter, je prends le micro.
Ah, je t'en supplie.
Ah, merci beaucoup. Vas-y. Mon rêve, vous savez, avant de faire... le podcast de la Sommoire, c'était d'être chanteur
bien
de rock.
Hein, voilà.
T'as une tellement belle voix en plus.
Oh, merci.
Mais c'est vrai, t'as une voix de radio. Bref.
Ah, c'est la chanson là ? Ah, merde. Ah, parce qu'on avait pas. Okay.
Je fais très mal le synthé, par contre. Mais.
On peut pas tout faire. Hein.
She comes the planet glare.
She comes the planet glare. c'est une chanson poétique.
Jean-Michel Enrhumé. Ok, vous l'avez sans doute pas.
Non. Voilà.
C'est The B-52s.
Non, on
ah ouais.
Pas.
Non.
Ah, le mec, il avait quand même une sacrée culture
non, mais
musicale.
Là-dessus, il a toujours été très impressionnant.
Ouais, Ben Laden. Ouais, c'est ça. Alors que moi, je m'attendais que sa chanson préférée, ça soit Boom, 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 boom. Don't want you in the moon. Mais c'était pas ça, voilà. C'était The B-52s. Et la chanteuse préférée de Oussama Ben Laden.
Ne me dis pas que c'est Céline Dion.
Non, elle est américaine.
Ne me dis pas que c'est Lady Gaga.
Non. Je vais vous donner un indice. Ouais. Cette chanteuse a joué et fait la BO originale d'un film qui a été le plus vendu dans toute l'histoire.
Whitney Houston.
Bravo, voilà Thomas. Oussama Ben Laden était tellement fan de Whitney Houston qu'il lui a construit une villa au Soudan.
C'est pas vrai.
Si, elle a jamais foutu les pieds là-bas.
Mais
il a, ouais.
Tu ne l'as jamais demandé, Whitney. Ben, je l'ai fait pour toi quand même.
C'est ça. Et il avait dans le but secret, son rêve. Non, c'était de tuer Bobby Brown.
Son mari.
Ok, son ex, ouais. Ouais.
C'est incroyable cette histoire. Est-ce que t'en as d'autres que tu veux nous challenger là à présent?
Parce que moi je veux connaître la playlist Spotify d'Hitler.
Et le Deezer de Franco.
Le Deezer de Franco.
Et Poutine alors? C'est hyper étonnant, mais à votre avis, Poutine?
Attends, c'est pas une française?
Non, on cherchait plutôt un chanteur parmi un groupe anglais méga connu.
C'est les Beatles du coup?
Bravo petit pied!
Bravo!
Poutine est fan des Beatles et sa chanson préférée c'est Yesterday.
Ah ouais.
Ah c'est incroyable.
Okay. Yesterday.
Non, en russe s'il te plaît Thomas.
Ok.
Allez, cher pilier, c'est la fin de la tournée générale.
Oh.
Mais vous prendrez bien un dernier verre pour la route.
Oui.
Avant de fermer le bar avec la classique question con, je vous offre un dernier verre pour la route avec ce blind test spécial dictature.
Attends.
Êtes-vous prêt, mes chers piliers?
Oui. Okay. Oh, j'aime bien.
Les dictateurs.
C'est sexy sushi.
On dirait Lio.
Ah non, pas du tout, mais c'est proche un peu.
Années 80?
Non.
Les dictateurs.
Philippe Catherine.
Bravo Maxime. On écoute Philippe Catherine.
Oui. Bien joué.
Ah c'est lui qui chante là?
Bien sûr, écoutons Philippe Catherine dans mon album préféré qui s'appelle Magnum. J'ai failli poser cette question. Selon Philippe Catherine, quelle est la raison pour que les dictateurs deviennent des dictateurs? Et c'est la chanson et du coup j'ai préféré la garder pour le blind test.
Il y a une réponse?
Oui.
Ça vient. Sois patiente.
Voilà, c'est un peu long là.
Solini, Pinochet, vous pouvez vérifier sur Wikipédia de beaux bébés de 6 mois. Les dictateurs avec tous des mamans, trop mamans, Staline, Hitler ou Ben Ali. Vous pouvez vérifier dans leur biographie, elles étaient trop gentilles.
Elles étaient trop gentilles, c'est la faute des mamans. Bien trop gentil.
Toujours la faute des femmes.
Ah ouais, absolument.
C'est dégueulasse.
Mais c'est ironique de la part de Philippe.
Évidemment.
Non, c'est globalement une analyse politique très profonde, je pense.
Une analyse plus qu'analysée.
Ouais. Ah ouais, là c'est un avis profond. Hein.
Allez, chanson suivante.
Assassin Prêt, Nathalie Cardone. Cette chanson, on adore. Je l'ai dit avant toi.
Oui, tu l'as dit, Maxime. Bravo,
Nathalie
Maxime.
Nathalie Cardone, Assassin Prêt.
Bravo, Maxime.
Produit par Laurent Boutonnat, le producteur de Mylène
Farmer.
Mylène Farmer,
absolument. Oh là là.
Quel mois, quelle année, quelle heure
dans les années 2000, début années 2000. Ou fin. D'ailleurs, ça fait très Mylène hein, quand même, les
ouais,
arrangements.
Ouf.
Le puso un cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Ce moment-là qui fait très Mylène, je trouve.
De ouf. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi cette chanson pour parler de la dictature. Mais parce que justement, le Che, il a bouté la dictature. Boutonnat. Il boutonna la dictature.
Il boutonna la dictature, voilà.
De Fulgencio Batista en 1959. Et donc, le Che, quoi.
Ok.
Allez, c'est parti pour la chanson suivante. Bravo, Maxime. 2 points pour Maxime, du coup.
Oh, dis donc.
For Hitler, the producer Mel Brooks of Germany.
Oh là là, attention.
Il en est monté sur le canapé.
Il a failli faire un trou dans le plafond.
Non mais on adore The Producers, dont la comédie musicale avait été mise en scène par Alexis Michalik.
Absolument.
Au Théâtre de Paris cette année. Et vous pourrez retrouver Spamalot au Théâtre de Paris
avec
dès la
Vincent,
saison prochaine avec voilà. Vincent Mescure.
Et Fabrice Candeloro qui présente l'Eurovision.
Springtime for Hitler qui a été traduit en français génialissimement par
Des fleurs pour Hitler.
Et l'Allemagne.
Et l'Allemagne. Je sais pas comment ils l'ont traduit l'Allemagne. Et alors pour le pitch quand même, pour dédramatiser l'histoire.
Ah oui, parce que Petit pitch, Pied nous regarde bizarrement.
Non voilà, le pitch, donc c'est une comédie musicale qui s'appelle Les Producteurs. C'est des mauvais producteurs. Mm-hmm. Et pour toucher l'assurance qui leur permettra de devenir riches, ils se sont dit il faut qu'on fasse un four. Et donc,
très joli.
Et donc, quoi d'autre que de faire un four?
Il faut qu'on fasse un four, n'est-ce pas?
Que de faire une comédie musicale qui parlera des nazis, ça ne sera jamais plein. Et en fait, l'ironie fait que le truc est rempli et toute la comédie vient de ce sujet-là.
Évidemment, c'est du mauvais goût, c'est du kitsch. Et en fait, ça rend.
En fait, c'est beaucoup plus camp que mauvais goût. Ça se moque plus du
Absolument.
Propos que vraiment ça n'essaye de le.
Et je trouve que c'est une façon de moquer l'idéologie nazie qui a gerbé.
Mais oui. Ça y arrive très bien d'ailleurs, ça y arrive très
c'est
bien.
C'est fantastique. Je pense qu'il faudrait faire montrer ce film à tous les néo-nazis.
Il faudrait montrer beaucoup de films.
De toute façon, il faut les éduquer. Il faut les éduquer, ces gens-là.
Mais
c'est
bien,
c'est
mais
un manque d'éducation.
Tu sais quoi, si on revient à la première question du podcast, c'est qu'est-ce que tu ferais? Au début, j'avais une réponse qui était.
Ah, tu t'en souviens, toi?
Oui,
bah, dis donc, t'as de la
fait...
chance.
Non, mais j'avais une réponse qui était moins rigolote que l'histoire de la salsa, qui était de te dire, eh ben, il faut que le premier budget de l'État soit celui de l'éducation.
Oui.
Voilà,
oui,
moi,
oui,
ce
absolument.
Serait vraiment,
c'est vrai.
Vraiment par-dessus tout, ce serait ça.
Ouais, totalement. Absolument. Attention pour la dernière, c'est parti.
Hi, papi! À quoi? À quoi?
Bravo, Thomas!
C'est quoi le rapport?
Bah, Klaus Barbie, tu connais pas?
Ah oui, ah oui, alors.
Bravo Maxime, c'est toi qui as gagné le blind test. Bravo Maxime.
Merci.
Et pour terminer cette émission, avant de fermer le bar, mes chers piliers, je vais vous poser la classique question con de la Semoir que ça fait des années que j'avais pas posée. Pour vous, c'est quoi la vie?
Oh là. Moi je sais, c'est un dessin animé sur France 3
qui s'appelle Les Malheurs de Sophie,
qui a peut-être été produit en Corée.
La vie.
Il a été fait en Corée du Nord.
Ah joli.
On voit l'intérieur de Kim Jong-il.
En Corée de l'intérieur quoi.
En Corée de l'intérieur. Merci Thomas, c'est ta réponse. C'est ça la vie, c'est la vie, c'est la vie. Ah c'est très beau. Mon Maxime, c'est quoi la vie?
Moi pour moi la vie c'est l'harmonie. Je trouve que justement l'espèce humaine c'est la seule espèce qui manque de cette harmonie, parce que quand tu... Moi j'habite à côté d'une forêt et quand je me balade en forêt je vois que les arbres, les plantes ont une vie, ont un esprit, un cœur.
Merci Pocahontas.
Et les animaux, tout ça, tout vit en harmonie, tout se respecte. Peut-être que le but dans la vie c'est de trouver son harmonie à soi.
Moi j'ai trouvé un harmonica.
C'est bien déjà.
C'est bien déjà, ça te permet de trouver un rythme, tu vois, dans la vie.
Non, mais c'est très juste ce que tu dis.
Et je trouve qu'en fait, si chacun, comme ça, pouvait faire un travail d'introspection et trouver sa propre musique, sa propre harmonie, ben on serait un petit peu moins dans la merde. Voilà. Et c'est ça mon but dans la vie, c'est de trouver mon harmonie à moi. Pour être le plus en accord avec moi-même et arrêter de faire chier les autres.
En accord avec la musique. Enfin, c'est très beau.
En accord
avec la musique. En
accord
avec ta vie. C'est magnifique. Oh, il y a un câlin qui se fait.
Merci.
Alors, pendant ce câlin, je vais te demander, petit pied, c'est quoi la vie pour toi ?
Non, mais elle est trop dure cette question. Elle est trop dure.
C'est être bien dans tes baskets ?
Non, j'en sais rien. Vraiment, j'en sais rien. Je ne saurais pas répondre à cette question, sincèrement.
Mais non, mais c'est beau de ne pas avoir de réponse, en fait. Parce que je veux dire, c'est quand même une question complètement con. Hein.
Ah, oui, bah ça, je te remercie.
Ça, oui.
Non, mais enfin,
c'est comme ça qu'elle s'appelle.
Moi, je crois que c'est la réponse à peu près la plus intelligente. Quand même. Je sais pas.
Je demande à Petit Pied qui a fait une BD sur comment rater sa vie. Donc, je lui demande. Et parce que justement, dans une de tes premières pages, tu as dit qu'on a tous un dictateur en nous.
Oui.
Et c'est...
C'est le cerveau. Notre corps est contrôlé par notre cerveau. On n'a pas le choix.
Et notre ventre.
Et notre ventre,
notre
oui, après,
cerveau.
Oui, effectivement.
Et notre bite, que je n'ai pas.
Et non, mais c'est marrant, parce que tu dis, c'est un organe dans le corps, t'es vraiment en mode, bon, non, c'est le cerveau qui contrôle, je fais rien, j'ai pas le choix, ça se passe comme ça et tout. Mais oui, voilà.
Mais c'était très bien.
C'est bien déjà.
Ma Lucie. C'est quoi la vie ?
La vie, c'est la lave du volcan. Tu vois, je rebondis sur Maxime et sa nature. La lave du volcan qui fait hihihi.
Ah, ça fait ça, la lave du... Ah, je savais pas que ça faisait ça.
Non, mais parce qu'il y a un cheval, en fait, sur le volcan. Donc, quand la lave,
oui.
Le cheval s'en va, il fait... Hee, lave,
moi, je connaissais what the fuck say, mais tu vois, what the lava says, je sais
voilà.
pas.
Voilà, bah, maintenant, tu peux y réfléchir.
Eh ben, je suis bien content.
Et toi, mon Jean-Seb, c'est quoi la vie pour toi ?
Pour moi, la vie, c'est quoi ? C'est la saumoire ! Bravo ! C'était Jean-Sébastien, votre barman. Merci de nous avoir écoutés. Mettez 5 étoiles, pas forcément jaune, au podcast. Partout où vous le pouvez. Écoutez aussi les autres épisodes de l'Assommoir. Parlez-en autour de vous. Et on remercie nos piliers de
Même
ce mois.
Même s'ils sont moins bien, le second.
Il y a Yoshi qui revient. Qui était Thomas.
Merci, ouais. Merci.
Thomas du podcast 12 points, où est-ce qu'on peut t'aduler, Thomas ?
Écoutez, vous pouvez me retrouver sur 12.podcast.com ou sur 12.podcast sur Instagram.
Ça fait beaucoup de points quand même.
Mais c'est facile à retenir.
Il y a 13 points du coup.
13 points.
com. Ah, je suis bonne en maths. Ah, je sais compter, moi.
Et en face de toi, mon Thomas, il y avait Petit Pied.
Oui. Qui a des grands pieds, 42.
Grands pieds, grandes... BD,
chaussette.
BD, grande BD.
Très grande BD.
Où est-ce qu'on peut te lire, mon petit pied ?
J'ai sorti ma BD en début d'année qui s'appelle Comment rater sa vie aux éditions exemplaires, qui est commandable en ligne ou chez votre libraire. Vous pouvez demander à être commandé.
Moi, je l'ai lu et je suis tous tes principes.
Non, hein. Merci, merci beaucoup. Ouais, du coup, c'est une BD humoristique. Hein, parce que j'ai vraiment eu quelqu'un en dédicace qui croyait que c'était Prom Dog. C'était très gênant de lui expliquer.
Et qui a
que,
tout fait.
Non, c'est une blague et tout. Et il est en mode non, mais on n'aime pas la réussite dans la France. Je t'en mode waouh, gros
ouais,
malaise et tout. Non, mais vraiment. Donc,
vraiment,
je le précise, hein, c'est de l'humour. Non, mais oui, oui, il y a des gens chelous en
c'est
dédicace.
C'est ça qui est terrible, c'est que parfois, tu te rends compte, il y a des gens qui t'aiment, qui te suivent, et tu aimerais pas que ces gens-là, ils t'aiment.
Ouais, j'aimerais surtout pas qu'ils me suivent, si possible.
Bah, merci beaucoup, petit pied.
Avec plaisir.
Et est-ce que t'as des choses à venir ?
Oui, j'ai une troisième BD qui devrait sortir en fin d'année, normalement, si tout se passe bien. Voilà.
À mettre sous le sapin ?
À mettre sous le sapin, effectivement, j'ai prévu pour Noël. J'ai tout prévu pour votre Noël, vous avez déjà un cadeau de prêt.
Ah, trop bien.
Et du coup, sinon, je suis sur les réseaux, @petitpieddessin, sur Insta et Twitter.
Merci beaucoup, petit pied.
Avec plaisir.
Et à côté de toi, petit pied, il y avait autour du comptoir Maxime Farrell.
Il était là, dis donc.
Alors, Maxime, où est-ce qu'on peut te vénérer ?
Vous pouvez me suivre sur Instagram, @MaximeFarrell, ou alors sur TikTok, Maxime dans ta vie. Et je suis également sur YouTube, j'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle également Maxime dans ta vie, où je partage des choses un peu plus intimes, c'est des vidéos sur des formats un peu plus longs, et on parle un peu de tout, on parle de la vie, c'est une chaîne de confession, voilà, qui me fait beaucoup de bien, et j'espère qu'il fait aussi beaucoup de bien à tout le monde, voilà.
Et enfin, notre Lucie nationale, bravo Lucie ! Merci d'être revenu, Lucie, tu sais qu'il y a des auditoristes qui m'ont dit « Oh, il y a Lucie dans ce podcast, on va le réécouter !» Paul Favol. Voilà. Alors, ma Lucie, est-ce que tu auras un petit mot pour la fin ?
Bonne nuit. Je vous souhaite vraiment une bonne vie. À tous.
Faites-vous dépister, c'est important.
Je t'aime, Lucie.
Faites-vous des pistaches si vous êtes poutine.
Faites-vous
évidemment.
Des pistaches.
Bah, à 22h45, on se dit bonne nuit.
Hein. Et nos auditeurs, elles nous écoutent et ils nous écoutent quand ils font du jogging, quand ils font du sport. Tu peux pas leur dire bonne nuit.
Bon jogging, bonne Pâques, joyeux Noël, bon anniversaire.
Allez, voilà, balance.
Bonjour.
Tout. Et bonne année.
Bon appétit. Ah. Bonne digestion.
Et appelle ta mère, dis-lui que tu l'aimes. Voilà.
Maman, je t'aime.
Oh, je l'aime aussi, ta mamoune, elle est trop forte. Merci à tous de nous avoir écoutés. Parlez du podcast de l'Assommoir autour de vous. Le mois prochain, on va parler d'un sujet tout aussi sérieux. Ô combien
important.
Important. L'espace.
Pas l'espace entre les mots.
Pas la bagnole.
Ni la barre sur le clavier.
Ni la barre sur le clavier, mais l'espace, le vrai. Celui qui est au-dessus de nous.
Suivez l'actualité sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, surtout Instagram. Et allez, santé!
Santé! Santé, gling, gling, gling! C'est Noël avant l'heure!
Et là, normalement, on doit finir par une vanne. Donc, est-ce que quelqu'un a une petite blague, une petite blagounette?
C'est Hitler qui dit à Poutine, t'as une tache, pistache.
Oh, non, si, si, elle est bien, si!
Elle est bien, elle est bien, elle est bien.
Bravo, Maxime!
Bravo!
Et bravo à vous tous.
Bravo à tous.
Merci.